Chapitre 2. Après le départ du baron, Gaston d'Outreville se jeta dans le fauteuil, plongea sa tête dans ses deux mains et réfléchit si longuement que son encre de Chine eut le temps de sécher. « Et à quel propos, se demandait-il, une bourgeoise vient-elle m'offrir sa fille et 100 000 francs de rente ?»« Je connais bon nombre de jeunes gens qui, à sa place, eussent été moins embarrassés. » Ils auraient eu bientôt temps, fait de construire un roman d'amour pour expliquer tout le mystère. Mais Gaston manquait de fatuité, comme Lucile de coquetterie. La seule idée qui lui vint fut que Madame Benoît voulait pour gendre un forgeron bien élevé. Elle a entendu parler de moi, pensa-t-il, en lui radiant un mot de mes recherches et de mes découvertes. J'étais assez répandu dans le faubourg du temps que je ne connaissais pas encore la sottise et la naïveté, vanité des relations du monde. Il est évident que cette usine a besoin d'un homme. Une mère et sa fille, additionnées ensemble, ne font pas un mètre de forge. Qui sait, les travaux ne sont pas en souffrance si l'entreprise n'est pas en péril. Eh bien, mon Dieu, nous la sauverons. Outreville, à la rescousse. Comme disaient nos aïeux, ces artisans héroïques qui forgeaient leurs épées eux-mêmes. Là-dessus, il refit de l'encre de Chine et termina consciencieusement son lavis. Le lendemain, il se promena à grands pas dans le jardin du Luxembourg jusqu'à l'heure du déjeuner. Après-midi, il s'enferma dans un cabinet de lecture où il feuilleta successivement tous les journaux du jour et toutes les revues du mois, et depuis longtemps il n'avait fait pareille débauche. Il est heureux, pensait-il, qu'on ne se marie pas souvent, on travaillerait guère. À 5 heures, il se mit à sa toilette, qui fut longue. Il s'attendait à dîner avec sa future. 6h30 sonnaient lorsqu'il entra chez le baron. Il espérait savoir de son vieil ami comment Madame Benoît avait pris la fantaisie de le choisir pour gendre. Mais le baron fut mystérieux comme un oracle. Il respectait trop son orgueil pour lui conter la vérité. En arrivant au petit hôtel de la rue Saint-Dominique, ils aperçurent 2 ouvriers juchés sur une double échelle et occupés à mesurer quelque chose au-dessus de la porte cochère. « Devinez, dit le baron, ce que ces braves gens font là-haut. Mais ils prennent la mesure d'une plaque de marbre sur laquelle on écrira « Hôtel d'Outreville ».»« Bonne plaisanterie, » répondit Gaston en franchissant le seuil de la porte. « Vous ne me croyez pas? Revenez un peu par ici. Voilà, monsieur Renaudot, n'est-ce pas vous que je vois ?»« Oui, monsieur le baron, » dit le marbrier, qui descendit aussitôt. « Dans combien de temps pensez-vous pouvoir poser la plaque ?»« Pas avant un mois, monsieur le baron, à cause des arbres qu'il faut sculpter dessus. »« Comment ? Vous n'avez demandé que 15 jours au marquis de Croix-Margard ? Ah, monsieur le baron, les arbres d'Outreville sont bien plus compliqués. »« C'est juste. Et bonsoir, monsieur Renaudot. »« Eh bien, sceptique ?» « Mais ça, mon vieil ami, à travers quel conte de fées me promenez-vous ? Cela tient du chaboté, puisqu'il y a un marquis. Bien obligé. Et de la belle au bois dormant, puisque la future marquise, qui vous a jamais vu, dort innocemment sur les 2 oreilles au fond de votre forêt d'Allange, en attendant que le fils du roi vienne la réveiller. Ah, comment elle n'est pas ici ? Non, il faut savoir que vous l'avez regretté. » Madame Benoît accueillit ses hôtes à bras ouverts. Avertie à temps du succès de l'affaire, elle avait commandé un dîner d'archevêque. On perdit peu de temps en présentation. Les connaissances font mieux à table. La conversation s'engagea assez plaisamment entre la belle-mère et le gendre. Gaston parlait Arlange et Madame Benoît répondait faubourg. Elle se lançait dans des questions de noblesse. Ils faisaient un détour et revenaient aux forges, chacun suivant obstinément ses idées favorites. Cette lutte obstinée n'éclaira personne, pas même l'excellent baron, qui se livrait au seul plaisir de son âge et faisait honneur au dîner plus qu'à la conversation. Madame Benoît ne devina point la passion de son gendre, et Gaston ne soupçonna pas la manie de sa belle-mère. Il se disait « Bon, de deux choses l'une, ou Madame Benoît évite par vanité bourgeoise de parler du sujet qui l'intéresse le plus, ou elle craint d'ennuyer le baron qui ne nous écoute pas. » Et Madame Benoît pensait au même instant « Le pauvre garçon croit faire acte de politesse en me parlant de choses que je connais. Il ne sait pas que je connais le faubourg aussi bien que lui. » De guerre lasse, Gaston abandonna la question des fers et l'industrie métallurgique, et Madame Benoît put l'interroger sur tout ce qu'elle voulut. Elle le savait par cœur, le grand livre du magasin de son père, ce prosaïque livre d'or de la noblesse parisienne. Elle n'ignorait aucun des noms que Dolzer avait connus, reconnus. Et pour s'assurer que Gaston était en mesure de la conduire partout, elle lui fit subir, sans qu'il s'en doutât, un examen dont il se tira naïvement à son honneur. Elle se réjouit dans les profondeurs de son ambition en apprenant que Gaston avait dîné ici, qu'il avait dansé là, qu'on le tutoyait dans telle maison, qu'on le grondait dans telle autre, qu'il avait joué à 10 ans avec tel duc et galopé à 20 ans avec tel prince. Elle inscrivit dans sa mémoire, sur des tables de pierre et d'airain, toutes les parentes proches ou lointaines de son gendre. Si elle en avait oublié une seule, elle aurait cru manquer à sa propre famille. Après le café, on fit un tour de jardin. La nuit était magnifique et le ciel illuminé comme pour une fête. Madame Benoît montra au marquis les propriétés voisines. « Ici, dit-elle, nous avons le comte de Preux. Le connaissez-vous ?»« Bon, il est mon oncle à la mode de Bretagne. » La glorieuse bourgeoise inscrivit triomphalement ce parent inespéré. « Là, poursuivit-elle, c'est la maréchale de Lens. Ce serait une rencontre curieuse qu'elle fût aussi de la famille. » « Ah non, 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 madame, elle était la marraine d'un frère que j'ai perdu. »« Bon, pensa madame Benoît, si le gros intendant est encore de ce monde, nous viendrons à le faire chasser. C'est un trésor qu'un pareil gendre. » Si Gaston s'était avisé de dire « Sautons par-dessus le mur et allons surprendre la maréchale », madame Benoît aurait sauté. Mais le baron, qui se couchait volontiers au sortir de table, sonna la retraite, et Gaston le suivit. Un bon coupé, au chiffre de madame Benoît, les attendait à la porte. « Mon cher enfant, dit le baron dès que la portière fut fermée, fais prodigieusement, dînez-vous. Mais on dîne pas à votre âge. Comment trouvez-vous votre belle-mère ? Oh, je la trouve à souhait. » C'est une femme vaine et creuse, qui ne se mêlera pas de la forge et qui ne viendra point contrarier mes expériences. Tant mieux si elle vous a plu. Quant à vous, vous avez fait sa conquête, elle me l'a dit d'un signe pendant que je lui baisais la main. Oh, je crois que nous pouvons faire la demande en mariage. Déjà ? Ben, c'est ainsi que les affaires se traitent dans tous les contes de fées. Lorsque le fils du roi eut réveillé la belle au bois dormant, il l'épousa séance tenante, sans même aller quérir la permission de ses parents. Oh, quant à moi, je n'ai malheureusement besoin de la permission de personne. Si vous trouvez que demain soit un peu tôt, nous attendrons quelques jours, je me tiendrai à vos ordres. À propos, il faudra que vous me prêtiez votre acte de naissance et quelques autres pièces indispensables. Oh, quand vous voudrez. J'ai tous mes papiers dans une liasse, vous y prendrez ce qu'il faudra. » La voiture s'arrêta devant la maison du baron. Gaston descendit aussi et continua sa route à pied pour s'assurer qu'il ne rêvait pas. Le lendemain, monsieur de Soubressac vint prendre l'acte de naissance et emporta, comme par distraction, tout tous les papiers qui l'accompagnaient. Il confia le dossier à Madame Benoît, qui, par excès de précaution, le soumit aux lunettes d'un archiviste paléographe, ancien élève de l'école des Chartes et conservateur adjoint à la Bibliothèque royale. L'authenticité du moindre chiffon fut reconnue et certifiée. Le baron fit alors la demande officielle, qui fut agréée par acclamation. La radieuse veuve resta quelque temps incertaine si elle marierait sa fille à Paris ou si elle transporterait cette grande cérémonie dans la petite église d'Arlange. D'un côté, il était bien flatteur d'occuper le maître-autel de Saint-Thomas d'Aquin et de déranger la moitié du faubourg pour la messe de mariage, mais on avait une revanche à prendre, et il importait d'effacer dans le pays les dernières traces du marquisat de Kerpris. Madame Benoît se décida pour Arlange, mais avec le ferme propos de revenir bientôt à Paris. Elle écrivit à son carrossier « Monsieur Bard, je partirai le 5 mai pour marier ma fille, qui épouse, comme vous savez, le marquis d'Outreville. Aussitôt mon départ, vous ferez prendre toutes mes voitures pour les remettre à neuf et peindre sur les portières les armes si jointes. De plus, je vous prie de me faire le plus tôt possible un carrosse dans l'ancien style, large, haut et de la forme la plus noble que vous pourrez. Le cocher et la caisse seront poudrés à blanc. Réglez-vous là-dessus pour l'harmonie des couleurs. » Elle songea ensuite que ce serait sa fille qui l'introduirait dans le monde. Et cette idée lui inspira une recrudescence d'amour maternel. Elle écrivit à Lucile, que n'avait pas accoutumé à beaucoup de tendresse. « Ma chère enfant, ma belle mignonne, ma Lucile adorée, j'ai trouvé le mari que je te cherchais. Tu seras marquise d'Outreville. Oui, je l'ai choisi entre mille pour qu'il fût digne de toi. Il est jeune, beau, plein d'esprit, d'une noblesse ancienne et glorieuse et allié aux plus illustres familles de la France. Chère petite, ton bonheur est assuré, le mien aussi, puisque je ne vis que par toi. Tu viendras bientôt à Paris, tu quitteras cet affreux Arlange où tu as vécu comme un beau papillon dans une chrysalide noire. Tu seras accueilli et fêté dans les plus grandes maisons. Je te conduirai de plaisirs en plaisirs, de triomphes en triomphes. Quel spectacle pour les yeux d'une mère !» Madame Benoît était légère comme une mésange. Ses pieds ne posaient pas à terre. Sa figure avait rajeuni de 10 ans. On croyait voir une flamme autour de sa tête. Elle chantait en dansant, elle pleurait en riant. Elle avait la démangeaison d'arrêter les passants pour leur conter sa joie. Elle se surprenait à saluer les dames qu'elle rencontrait dans des voitures armoriées. Elle fut si tendre avec le marquis, elle l'enveloppa d'un tel réseau de petits soins et de prévenances, que Gaston, qui depuis longtemps n'avait été l'enfant gâté de personne, s'est pris d'une véritable amitié pour sa belle-mère. Il la quittait rarement, la conduisait partout et ne s'ennuyait pas avec elle, quoiqu'elle évitât toute conversation sur les forges. L'avant-veille de son départ, Madame Benoît s'empara de lui pour la journée. Elle le mena d'abord chez Taran, où elle choisit devant lui une grande boîte en bois de rose, longue, large et plate, et divisée à l'intérieur en compartiments inégaux. « Et à quoi sert ce coffre étrange ?» demanda Gaston en sortant. « Cela, mais c'est la corbeille de mariage de ma fille. » « Mais, madame, reprit le marquis, avec la fierté du pauvre, il me semble que c'est à moi. »«
Il vous semble fort mal, mon cher marquis. Lorsque vous serez le marquis de Lucile, vous lui ferez autant de cadeaux qu'il vous plaira. Dès le lendemain de la cérémonie, vous aurez carte blanche, mais jusque-là, il n'appartient qu'à moi de lui donner quelque chose. » Je trouve impertinent l'usage qui permet au fiancé d'une fille de lui donner pour 50 000 francs de hardes et de bijoux avant le mariage, et ne lui esquit encore rien. Dites, si vous voulez, que j'ai des préjugés ridicules, mais je suis trop vieille pour m'en défaire. Nous allons choisir aujourd'hui mes présents de noces. Dans un mois, je viendrai, si bon vous semble, vous aider à choisir les vôtres. »
Le raisonnement était facile à réfuter, mais il fut déduit d'un ton si caressant et d'une voix si maternelle que Gaston ne trouva point de réplique. Depuis 3 jours, il était en pourparlers avec un usurier à propos de cette corbeille.
Il se laissa conduire chez 20 marchands et choisit des étoffes, des châles, des dentelles et des bijoux. Point de diamants, Madame Benoît partageait les siens avec sa fille. La belle-mère prit congé de son gendre le 5 mai en lui donnant rendez-vous pour le 12. Elle se chargeait de faire faire la première publication à l'église et à la mairie, tandis que Gaston poussait l'épée dans les reins à son chemisier et à son tailleur. Dans la confusion inséparable d'un départ, elle emballa par mégarde tous les papiers de la maison d'Outreville. La première idée de Lucile, en revoyant Madame Benoît, fut qu'on lui avait changé sa mère à Paris. Jamais la jolie veuve n'avait été si indulgente. Tout ce que Lucile faisait était bien fait, tout ce qu'elle disait était bien dit. Elle se conduisait comme un ange et parlait d'or. Jamais la tendre mère ne pourrait se séparer d'une fille si accomplie. Elle la suivrait partout, elle ne la quitterait qu'à la mort. Elle le lui disait, comme dans l'histoire de Ruth, « Ton pays sera mon pays ». Lucile ouvrit son cœur à cette nouvelle mère et apprit avec une vive satisfaction qu'il y avait beaucoup de marquis jeunes, bien faits, et qui ne portaient point d'habits à paillettes. Le lendemain de l'arrivée de Madame Benoît, son amie Madame Médier vint lui annoncer le prochain mariage de sa fille Céline avec M. Jordy, raffineur à Paris. M. Jordy était un jeune homme fort riche, et Madame Médier ne dissimulait pas sa joie d'avoir si bien établi sa fille. Madame Benoît riposta vivement par l'annonce du prochain mariage de Lucile avec le marquis d'Outreville. Alors on se félicita de part et d'autre et l'on s'embrassa à plusieurs reprises. Quand Madame Mélier fut partie, Lucile, qui était liée depuis l'enfance avec sa future Madame Jordy, s'écria « Ah, quel bonheur! Si je vais à Paris, je serai tout près de Céline. Elle viendra chez moi, j'irai chez elle, nous nous verrons tous les jours. » « Oui, mon enfant, répondit Madame Benoît, tu iras chez elle dans ton grand carrosse blasonné, avec les daquets poudrés à blanc. Mais quand on la recevra chez toi, c'est autre chose. On se doit à son monde et l'on est un peu esclave de la société où l'on vit. Lorsqu'une duchesse viendra dans ton salon, il ne faut pas qu'elle s'y frotte trop à la femme d'un raffineur, d'un homme qui vend des pains de sucre. » C'est pas une raison pour faire l'amour. Voyons, non, tu recevras Céline le matin, avant midi. Dieu, mais quel sot pays que ce Paris! Oh, j'aime mieux rester dans mon pauvre Allange, où l'on peut voir ses amis à toute heure de la journée. Et Madame Benoît répliqua sentencieusement, « Ma femme va suivre son mari. » Le grand événement qui se préparait à Allange fut bientôt connu dans tous les environs. Madame Mélier était en tournée de visite, et puisqu'elle annonçait un mariage, il n'en coûtait pas plus pour en annoncer deux. Dans chacune des maisons, elle s'arrêta, elle répétait une phrase toute faite qu'elle avait arrangée en sortant de chez Madame Benoît. « Madame, je connais trop l'intérêt que vous portez à toute notre famille pour n'avoir pas voulu vous annoncer moi-même le mariage de ma chère Céline. » Elle épouse non pas un marquis, comme Mademoiselle Lucile Benoît, mais un bel et beau manufacturier, M. Jordy, qui est à 33 ans un des plus riches raffineurs de Paris. Madame Mélier avait de bons chevaux, sa voiture et les nouvelles qu'elle portait firent 10 lieues avant la nuit. Le faubourg Saint-Germain du Cru commença par plaindre la pauvre Lucile et par faire des gorges chaudes de Madame Benoît, qui avait trouvé pour sa fille un second marquis de Kerpri. Madame Benoît prit sans sourciller tout ce qu'on disait d'elle. Elle prit les papiers de la famille d'Outreville et se fit conduire chez une vieille baronne fort médisante et fort influente, Madame de Somerforge. « Madame la baronne, lui dit-elle du ton le plus respectueux, quoique je n'ai eu l'honneur de vous recevoir que 2 ou 3 fois, il ne m'en a pas fallu davantage pour apprécier l'infaillibilité de votre jugement. Votre connaissance approfondie des choses du grand monde et toutes les hautes qualités d'observation et d'expérience qui sont en vous. Vous savez comment j'ai eu le malheur d'être trompé par un larron de noblesse qui avait dérobé je ne sais où un nom honorable. Aujourd'hui, il se présente pour ma fille un parti magnifique en apparence, le marquis d'Outreville. J'ai entre les mains son arbre généalogique et tous les parchemins de sa famille jusqu'à l'époque la plus reculée. Mais je ne suis qu'une pauvre bourgeoise, sans discernement. On me l'a cruellement prouvé, et je n'ose plus penser par moi-même. Voulez-vous permettre, madame la baronne, que je vous soumette toutes les pièces qu'on m'a confiées pour que vous en jugiez sans appel et en dernier ressort? Ce petit discours n'était pas mal habile. Il flattait la vanité de la baronne et piquait sa curiosité. Madame de Sommerfogel fit bon accueil à la belle veuve et accepta avec une satisfaction visible la tâche importante qu'on lui confiait. Le jour même, elle convoqua le ban et l'arrière-ban de la noblesse des environs, et les papiers de Gaston passèrent sous les yeux de 20 ou 30 gentilshommes campagnards. C'est ce qu'avait espéré Madame Benoît. Cette liasse vénérable, d'où s'exhalait une franche odeur de noblesse, fit une impression profonde sur tous les hobereaux qui purent en s'approcher leur odorat. Les plus hostiles à la maîtresse des forges se retournèrent brusquement vers elle. Ce fut un concert de louanges où Madame de Sommerfogel remplissait les fonctions de chef d'orchestre. Cette pauvre Madame Benoît aura de quoi se consoler, et j'en suis bien aise, c'est une femme méritante. Ce Benoît qui l'a trompé était un mélite, oh, si nous l'avions connu en ce temps, nous l'aurions mis sur ses gardes. Après tout, que peut-on lui reprocher d'avoir voulu entrer dans la noblesse? Cela prouve qu'aux yeux des bourgeois éclairés, la noblesse est encore quelque chose. Madame Benoît n'est pas sotte, ni laide, oh, je ne sais quel secret elle a trouvé pour rajeunir. Quant à sa fille, c'est un petit ange. Oh, il y a bien longtemps que je l'ai aperçue, en 1836. Oh, promettait déjà. Mais désormais, nous la verrons souvent. La voilà des nôtres. Oh, elle en était déjà par son éducation. Oh, je tiens de bonne part que sa mère a toujours voulu en faire une marquise. Sa mère sera des nôtres. Aussi, une fille ne va pas sans sa mère. Le marquis arrive à cesser sa mort, c'est un appoint considérable pour l'aristocratie du canton. Oui, on le dit fabuleusement riche. Ils feront une bonne maison. Ils donneront des fêtes. Nous serons de noces. Le lendemain, le salon de Madame Benoît fut envahi par une horde d'amis intimes qu'elle n'avait pas vus depuis 12 ans. Le marquis arriva le 12 mai pour l'heure de dîner. Après avoir cherché et trouvé 1 millier de francs qui ne coûtèrent pas plus de 60 louis, il avait fait ses malles, embrassé le baron et pris modestement la voiture de Nancy. À Nancy, il s'embarqua dans la diligence de Dieuze. À Dieuze, il se procura un cabriolet et un cheval de poste qui le conduisirent à Arlange. C'est l'affaire d'une heure quand les chemins sont beaux. En approchant du village, il se sentit au côté gauche quelque chose qui ressemblait fort à une palpitation. Je dois dire à la honte du savant et à la louange de l'homme qui ne pensait pas à la forge, mais à Lucile. Une illustre anglaise que le Kant ne gênait pas beaucoup, Lady Montag, s'étonnait que l'Apollon de Belvédère et je ne sais quelle Vénus antique passe tester en sa présence dans le musée, sans tomber dans les bras de l'un de l'autre. Il en fallut assez peu que ce petit scandale ne se produisît à la première rencontre de Lucile et de Gaston. Ces jeunes êtres, qui ne s'étaient jamais vus, sentirent au même instant qu'ils étaient nés l'un pour l'autre. Dès le premier coup d'œil, ils furent amants. Dès les premiers mots, ils furent amis. La jeunesse attisait la jeunesse, et la beauté la beauté. Il n'y eut entre eux ni trouble ni embarras. Ils se regardaient en face, et ils se miraient l'un dans l'autre, avec la charmante impudence de la naïveté. Le cœur de Gaston était presque aussi neuf que celui de Lucile. Leur passion naquit sans mystère, comme ces beaux soleils d'été qui se lèvent sans nuages. Je ne nie pas l'enivrement des passions coupables que le remords assaisonne et que le péril anoblit. Mais ce qu'il y a de plus beau en ce monde, C'est un amour légitime qui s'avance paisiblement sur une route fleurie, avec l'honneur à sa droite et la sécurité à sa gauche. Madame Benoît était trop heureuse et trop sensée pour entraver la marche d'une passion qui la servait si bien. Elle laissa aux deux amants cette douce liberté que la campagne autorise. Leurs premiers jours ne furent qu'un long tête-à-tête. Lucile fit à Gaston les honneurs de la maison, du jardin, de la forêt. Ils montaient à cheval à midi, en sortant de déjeuner, et rentraient comme des enfants qui ont fait l'école buissonnière longtemps après la cloche du dîner. Après la forêt, la forge eut son tour. Gaston avait eu le courage de n'y point mettre les pieds sans Lucile. Mais lorsqu'il vit qu'elle ne méprisait pas le travail, qu'elle connaissait les ouvriers par leur nom, et qu'elle ne craignait point de tacher ses robes, ce fut un redoublement de joie. Il se livra sans contrainte à la passion de sa jeunesse. Il examina les travaux, interrogea les contremaîtres, conseilla les chefs d'atelier, enchanta Lucile, qui s'émerveillait de le voir si savant et si capable. Madame Benoît, les voyant rentrer tout poudreux ou même un peu noircis par la fumée, disait « Que les enfants sont heureux, tout leur sert de jouet !» Pour se délasser de leur fatigue, ils s'asseyaient au fond du jardin, sous une tonnelle de rosiers grimpants, et ils faisaient des projets. Projets de bonheur et de travail, d'amour et de retraite. Ils se promettaient de cacher leur vie au fond des bois d'Arlange, comme les oiseaux font leur nid au plus fourré d'un buisson ou sur la branche la plus touffue d'un arbre. De Paris, pas un mot du faubourg et des vanités du monde. Lucile ignorait qu'il y eût d'autres plaisirs, et Gaston l'avait oublié. Un beau matin, Madame Benoît leur apprit une grande nouvelle. C'était le soir qu'on signa le contrat. Le mariage était fixé au mardi 1er juin. On s'épouserait la veille à la mairie. Comme il n'est point de plaisir sans peine, la signature du contrat était précédée d'un interminable dîner où l'on avait convié tous les personnages des environs. En attendant l'arrivée des convives, Gaston et Lucile se promenèrent au jardin en chapeau de paille, l'un vêtu de coutil blanc, l'autre habillé de barège rose. En passant à portée de l'usine, Gaston fut accosté par le régisseur qui le tenait en haute estime et qui demandait volontiers ses avis. Ils entrèrent tous trois dans un des ateliers et l'on commença devant eux une expérience intéressante. Lorsque 4 heures sonnèrent à l'horloge de la fabrique, Lucile s'échappa pour aller à sa toilette en disant à Gaston « Vous avez le temps de voir la fin. « Restez, je le veux !» Il resta et prit un si vif intérêt au spectacle qu'il mit la main à la besogne et se salit abominablement. À 5 heures, il s'enfuit, les manches retroussées et les mains noires, et il donna juste au milieu d'un groupe d'invités qui se promenaient en grands atours. Quelqu'un le reconnut et l'appela par son nom. C'était l'ingénieur des Salines de Dieuze, un de ses camarades de promotion. L'école polytechnique est, comme l'aristocratie du faubourg, un peu franc-maçonne. Elle se retrouve partout. Gaston sauta au cou de son ami et l'embrassa sur les deux joues en tenant ses mains en l'air de peur de le noircir. Il avait là 3 ou 4 dames nobles qui s'étonnèrent un peu de voir un marquis fait comme un ramoneur et embrassant sur les deux joues un employé de la saline, mais elles se réconcilièrent avec lui lorsqu'il reparut dans un habit neuf, conforme au dernier numéro du journal des tailleurs. Il devait dîner entre Madame Benoît et la baronne de Sommerfogel, mais au moment de se mettre en route, la vieille dame avait été prise d'une migraine. Ses excuses arrivèrent pendant le potage. On enleva son couvert et Gaston se trouva voisin de son ami l'ingénieur. Il était le centre de tous les regards. Chacun des convives, et surtout les députés de la noblesse, attendait de lui un coup d'œil gracieux et une parole aimable, comme en allant à la cour on espère un petit mot du roi. Mais ces deux passions l'absorbaient trop pour qu'il songeât à examiner la collection de grotesques qui se repaissaient autour de lui. Il n'eut d'yeux que pour Lucile et d'oreilles que pour son voisin. Les Homerot crurent attirer son attention en engageant une conversation demi-politique où le ridicule des vieux préjugés s'étalait naïvement. Conversation pleine de liberté contre ce qui existait, pleine de regrets pour ce qui avait été. Ces discours, dont la suave absurdité eut ressuscité un marquis du bon temps, bourdonnèrent autour des oreilles de Gaston sans arriver jusqu'à son cerveau. Dans un intervalle de silence, on entendit qu'il disait à l'ingénieur « Mais tu as un chemin de fer souterrain dans les salines. Combien payez-vous les rails ?»« Oh, je crois qu'en employant certains fourneaux économiques, dont je te montrerai le plan, on arriverait à vous livrer une marchandise excellente, bien au-dessous des prix anglais, à faut pas, 200 francs la tonne, peut-être à moins. »« Ah, mais tu es donc toujours le même. »« Non, pire. » Avez-vous quelquefois des ruptures de câbles? Oui, trop souvent, nous avons perdu 4 hommes le mois passé. Je t'indiquerai à remettre contre ces accidents-là. Ah, tu as trouvé un secret pour empêcher les câbles de casser? Non, mais pour retenir en suspens dans les puits le fardeau qu'ils laissent tomber. J'ai pratiqué ce système pendant 3 ans dans une houillère que je dirigeais à Saint-Étienne. Nous n'avons pas eu un seul accident à déplorer. Toute la noblesse du canton ouvrait de grandes oreilles, et Madame Benoît mourait d'envie de marcher sur le pied de son gendre. Le vicomte de Boulgardoff s'introduit timidement dans le dialogue. « Ah, monsieur le marquis possède des mines de houille dans le département de la Loire. »« Non, non, monsieur, répondit Gaston, j'ai été conducteur de travaux. » Pour le coup, Madame Benoît pensa qu'on avait pris assez de dessert et elle se leva de table. En passant au salon, les gentilshommes chuchotaient entre eux sur le marquis. Oh, singulier grand seigneur, qui se noircit les mains dans une forge, qui embrasse des employés, qui invente des machines, qui vend des rails à bon marché et qui a fait le contremaître chez un simple charbonnier de Saint-Étienne. Les plus indulgents, qui n'étaient pas en majorité, essayaient de le défendre. Après tout, disait-il, Louis XVI faisait des serrures. Louis XVIII faisait des vers latins. Henri III faisait la barbe de ses courtisans. Mais, reprenait un critique sévère, qu'est-ce qui s'amuse à casser du charbon au fond d'un trou? Eh, monsieur, répliquait un homme indulgent, mon père a soufflé des allumettes à Berlin pendant l'émigration. Madame Benoît devinait bien qu'on glosait sur Gaston, mais elle ne s'en tourmentait guère. Causez, mes bons amis, murmurait-elle entre ses dents. Je vous ai forcé de reconnaître mon gendre pour un vrai marquis. Vous êtes venu ici vous humilier devant moi. Benoît est oublié, je suis vengé. Je pars dans 8 jours pour Paris, et lorsque je remettrai les pieds à Arlange, les plus jeunes d'entre vous auront les cheveux blancs. Quant à maître Gaston, qui est un franc original, le séjour de son hôtel à la société de ses égaux l'auront bientôt guéri de ses idées. Avant la signature du contrat, on apporta la corbeille qui rangea toutes les femmes de partie de Gaston. Le pauvre garçon fut assassiné de compliments dont il n'osa pas se défendre. Mais il se promit d'apprendre à Lucile et dès le lendemain que ce n'était pas lui qu'elle devait remercier. Lorsque le notaire déroula son cahier, ce fut à qui se placerait plus près de lui, non pour connaître la dot de Lucile, qui était assez connue, mais pour entendre l'énumération des terres et châteaux du marquis. La curiosité publique fut trompée. Monsieur d'Outreville se mariait avec ses droits. Le lendemain de cette fête, Lucile et Gaston renouèrent la chaîne de leurs plaisirs et les derniers jours du mois passèrent comme des heures. Le 31 mai, les deux amants se marièrent à la mairie et ni l'un ni l'autre ne trembla au moment de dire oui. Lorsque Monsieur le maire, le code en main, répéta pour la 100e fois de sa vie que la femme doit suivre son mari, Madame Benoît fit à sa fille un petit signe fort expressif. En rentrant au logis, la triomphante belle-mère dit au marquis, en présence de Lucile, « Mon gendre, car vous êtes mon gendre de par la loi, je vous remettrai demain le premier semestre de vos rentes. »
Un peu de patience, ma charmante mère, répondit Gaston. Que voulez-vous que je fasse d'une pareille somme?
L'argent, ajouta-t-il en regardant Lucie, est le dernier de mes soucis.
Eh, mais ne dédaignez pas ce pauvre argent. Il vous en faudra beaucoup dans quelques jours à Paris.
À Paris, eh grand Dieu, qu'irais-je y faire?
Mais prendre pied, rallier vos amis et vos parents. Vous préparez un cercle de relations pour l'hiver et pour la vie.
Eh, madame, je suis bien décidé à ne pas vivre à Paris. C'est une ville malsaine où toutes les femmes sont malades, où les familles s'éteignent au bout de 3 générations faute d'enfants. Savez-vous que tous les 100 ans, Paris se changerait en désert si la province n'avait pas la rage de le repeupler?
Et c'est pour qu'il ne devienne pas un désert que nous avons résolu d'y aller au plus tôt.
Ah, vous ne me l'aviez pas dit, mademoiselle. Lucie baissa les yeux sans répondre. La présence de sa mère pesait sur elle.
Madame Benoît répliqua vivement. Mais ces choses-là se devinent sans qu'on les dise. Ma fille est marquise d'Outreville. Sa place est au faubourg Saint-Germain, n'est-ce pas vrai, Lucile?
Elle répondit du bout des lèvres un imperceptible oui. Oh, ce n'est pas ainsi qu'elle avait dit oui à la mairie.
Au faubourg, reprit Gaston, au faubourg. Mais vous êtes curieuse de pénétrer au faubourg. À la suite de quelques mécomptes dont personne n'a su le secret, il avait conçu contre le faubourg une haine violente. Savez-vous, mademoiselle, ce qu'on voit au faubourg? Des jeunes filles insipides comme des fruits venus en serre, des jeunes femmes perdues de toilette et de vanité. Des vieilles qui n'ont ni la raideur imposante de nos aïeules du XVIIe siècle, ni la verve et la bonne humeur des contemporaines de Louis XV. Des vieillards hébétés par le whist, des jeunes gens viveurs et dévots qui embrouillent dans la conversation les noms des chevaux de course et des prédicateurs. Chez les hommes en âge d'agir, une politique sans conviction, des regrets factices, de fidélité, qui se mettent en étalage dans l'espoir qu'il plaira à quelqu'un de les acheter. Voilà le faubourg, mademoiselle. Vous le connaissez aussi bien que si vous l'aviez vu. Quoi, vous vivez au milieu d'une forêt admirable, entourée d'un petit peuple qui vous aime. Je ne parle pas de moi, qui vous adore. Vous avez la fortune qui permet de faire des heureux, la santé sans laquelle rien n'est bon, les joies de la famille, les amusements de l'été, les plaisirs intimes de l'hiver. Et vous voulez tout abandonner pour une vie de sots, compliments et d'absurdes révérences. Mais ce n'est pas moi qui serai le complice d'un échange aussi funeste. Et si vous allez au faubourg, mademoiselle, je ne vous y conduirai pas. En écoutant ce discours, madame Benoît avait la figure d'un enfant qui a construit une tour en domino et qui voit le monument s'écrouler pierre à pierre. À peine trouva-t-elle la force de dire à Lucile
« Répondez donc !»
Lucile tendit la main à Gaston et dit en regardant sa mère
« La femme doit suivre son mari. »
Pour cette fois, le marquis fut moins réservé que l'abolon du belvédère. Il prit Lucile dans ses bras et la baisa tendrement. Madame Benoît employa le reste de la journée à former des plans, à donner des ordres et à combiner les moyens d'entraîner son gendre à Paris. Le lendemain, après la messe de mariage, elle le prit à part et lui dit
« Est-ce votre dernier mot? Vous ne voulez pas nous introduire au faubourg ?»«
Mais, madame, n'avez-vous pas entendu, comme Lucile y renonçait de bonne grâce ?»«
Mais si je n'y renonçais pas, moi, et si je vous disais que depuis 30 ans, oh, j'en ai 42, je suis travaillé de l'ambition d'y pénétrer. » Si je vous apprenais que le désir de m'entendre annoncer dans les salons de la rue Saint-Dominique m'a fait épouser un marquis de contrebande qui me battait, et si j'ajoutais enfin que je ne vous ai choisi ni pour votre figure, ni pour vos talents, mais pour votre nom, qui est une clé à ouvrir toutes les portes. Ah, mais ça, croyez-vous qu'on vous donne 100 000 livres de rente pour perdre votre temps à travailler? Ah, pardon, madame. D'abord, au prix où sont les noms sans tache, j'ai la vanité de croire que le mien ne serait pas cher à 2 millions. Ben, ce n'est pas le cas, puisque vous ne m'avez rien donné. La forge et la forêt sont l'héritage de Lucille. La rente que nous devons nous servir représente les intérêts de toutes les sommes que vous avez apportées dans l'entreprise. Et les 200 000 francs que vous a coûté l'hôtel de la rue Saint-Dominique. Ainsi, je tiens tout de Lucille, et avec elle, je ne suis pas en peine de m'acquitter. Mais c'est de moi que vous tenez Lucille. C'est de moi qu'elle vous tient, s'écria la pauvre femme. Et vous êtes des ingrats si vous me refusez le bonheur de ma vie. Vous avez raison, madame. Demandez-moi tout au monde, hormis une seule chose, et je n'ai rien à vous refuser. Mais j'ai juré de ne plus remettre les pieds dans le faubourg. Au nom du ciel, mais pourquoi ne me l'avez-vous pas dit? Vous ne me l'avez pas demandé? En quittant Gaston, Madame Benoît dit 3 mots à sa femme de chambre et 4 à son cocher. Elle ne parla plus au marquis du premier semestre de ses rentes. Le soir au bal, Lucille eut un succès de beauté et de bonheur. Aucune des femmes présentes ne se souvenait d'avoir vu une mariée aussi franchement heureuse. Tous les jeunes gens envièrent le sort de Gaston, suivant l'usage. Je ne me permettrai pas de dire que personne n'ait envié celui de Lucille. À 2 heures du matin, danseurs et danseuses étaient partis et les mariés restaient sur la brèche. Madame Benoît avait jugé convenable qu'ils fermassent le bal comme ils l'avaient ouvert. Cette tendre mère, dont le front semblait voilé d'un léger nuage, demanda la grâce de causer un quart d'heure avec sa fille et la conduisit dans la chambre nuptiale au rez-de-chaussée, tandis que Gaston, qui avait à secouer la poussière du bal, retourna pour la dernière fois à son petit appartement du second étage. En descendant le grand escalier, il fut surpris d'entendre le bruit d'une voiture qui s'éloignait au grand trot. Il entra dans la chambre nuptiale, elle était vide. Il passa chez Madame Benoît, toutes les portes étaient ouvertes et l'appartement désert. Des souliers de satin, deux robes de bal et un grand désordre de vêtements jonchaient le tapis. Il sonna, personne ne vint. Il sortit sous le vestibule et se rencontra face à face avec la physionomie rustaude du petit palefrenier Jacquet. Il le saisit par sa blouse. « Est-ce que je ne viens pas d'entendre une voiture ?»« Oui, monsieur, faudrait être sourd. »« Et qui est-ce qui s'en va si tard après tout le monde ?»« Mais monsieur, c'est madame et mademoiselle dans la berline, avec le gros Pierre et mademoiselle Julie. »« Oh, c'est bien, elles n'ont rien dit, elles n'ont rien laissé pour moi. »« Oh, non, pardonnez, monsieur, puisque madame a laissé une lettre. »« Où est-elle ?» Elle est ici, monsieur, sous la doublure de ma casquette. Mais donne donc, animal. C'est que j'ai fourré tout au fond, voyez-vous, crainte de la perdre. Ah, tenez, la voilà. Gaston courut sous la lanterne du vestibule et lut le billet suivant. Mon cher marquis, dans l'espérance que l'amour et l'intérêt, bien entendu, sauront vous arracher à ce cher Arlange, je transporte à Paris votre femme et votre argent. Venez les prendre.